Créodyssée. Voyager et se perdre dans la création. Un podcast présenté par Géraldine Jojou et réalisé par Éric Blanc.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Créodyssée, le podcast consacré aux artistes, à leur démarche, à leur environnement, à leurs pratiques et à leur mode de communication. Nous arrivons à ce mois de juin 2022, à une vingtaine d'épisodes et à force d'écouter, de décortiquer, nous nous préparons à décompter notre travail de recueil de paroles artistiques et en dégager quelques poussières d'or. Oh, on en avait déjà parlé lors de l'épisode précédent et on peut déjà nous imaginer, Eric et moi, tétanisés devant un grand tableau blanc. Que va-t-on raconter à cette occasion? Que mettre en évidence face à la diversité des interviews? Comment procéder pour dégager de ces matériaux les traits essentiels? Est-on suffisamment qualifié pour le faire et à qui s'adresserait une telle rétrospective? Que de questions, et à force d'en poser, il est clair qu'on ne fait plus rien. Mais ce n'est qu'un embrouillamini temporaire. Il faut cette hésitation, ce temps d'arrêt avant l'obstacle à franchir, ce moment de doute sur ce qu'on va être capable d'exécuter et sur ce qui en découlera pour qu'il y ait le décollage, l'eureka, la mise en œuvre, la création. Une fois en piste, une fois dans l'action, on ne regardera plus la pelote de laine dans sa globalité, pleine de nœuds, épaisse et emmêlée. Non, on se saisit d'un fil, on le tire délicatement, on s'appuie sur cette tension pour arriver à une vérité qui sera le reflet d'une réalité, une image parmi d'autres. Mais ne nous égarons pas et laissons de côté cette pelote qui nous donnera suffisamment de fil à retordre. Car aujourd'hui, nous avons la chance, grâce à notre invité Benoît Blary, dessinateur rémois et auteur d'une douzaine d'albums, d'explorer un autre aspect du travail artistique, celui de la collaboration, contribuer à la réalisation d'une œuvre tout en étant un artiste unique et original, voilà une opération délicate. Peut-on rester soi-même en tant qu'artiste en collaborant? Peut-on s'épanouir? La contrainte de l'accord avec le travail de l'autre est-elle stimulante? S'avère-t-elle être un frein? Faut-il développer un sens de l'écoute particulier pour ce type d'échange? Peut-on être happé, dévoré par l'univers artistique d'un autre? Entre ouverture et fermeture, entre attente et réception, entre production et correction, qui fait quoi? D'ailleurs, un couple d'artistes est-il semblable à un couple d'amoureux, avec ses hauts et ses bas, ses grands amours et ses séparations? Toutes ces questions sont réservées à notre invité, à lui de nous dire si elles sont sensées ou non. Bonjour Benoît Blary.
Bonjour Géraldine, bonjour Eric à la technique.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Alors Benoît Blary, on va commencer, comme avec les autres invités, par savoir un petit peu d'où vous venez artistiquement. Donc, c'est-à-dire, est-ce que dans votre famille, il y avait des artistes?
Alors des artistes, on va dire de profession, pas à ma connaissance. Par contre, il y avait une certaine pratique artistique de par mes parents déjà. Ma mère, qui j'ai toujours connue en train de peindre ou faire du pastel, des toiles ou sur papier. Et mon père aussi qui dessinait, qui dessine toujours à l'occasion, et ma mère d'ailleurs pratique toujours. Donc lui par contre, du côté dessin, vraiment dessin, voilà, plus technique, plus vraiment au Critérium ou au Rotring, ce genre de choses. Donc il y avait vraiment une pratique graphique, et mon père aussi a toujours fait de la photo, s'occupe d'un club de photo d'ailleurs, à faire des concours et des choses comme ça.
Et... D'accord. Et vous les regardiez, pratiquer? Vous avez des souvenirs?
Mon père, la photo, oui, je l'ai vu beaucoup faire, par contre le dessin, non, j'ai pas trop souvenir. Par contre ma mère, oui, je l'ai vu pratiquer, le pastel et la peinture, ce genre de choses.
Vous vous souvenez d'avoir eu un intérêt pour cette activité, ou alors vous l'avez regardé de loin en vous disant, tiens, ils font ça?
Là, ça reste très flou, j'étais vraiment petit, mais oui, ça m'a toujours intéressé, et donc oui, je regardais, mais après, bon, j'étais pas forcément non plus toujours à côté quand elle pratiquait, par exemple.
Et vos premiers contacts avec les œuvres d'art, alors ça date de l'école ou plus tardif?
Alors ça date de l'école. Alors je les considère aussi comme des œuvres artistiques. Ça va être notamment avec les romans. Dès que j'ai su lire, j'ai vraiment aimé lire en fait. Donc, des collections de romans jeunesse, des choses comme ça.
Quel genre de romans, si c'est pas indiscret?
Je me souviens de celui qui m'avait beaucoup marqué, que je garde des ambiances vraiment marquantes. C'était Rudiger, le petit vampire. Je me souviens plus du nom, c'était une autrice dans mes souvenirs. J'ai toujours les bouquins, mais là le nom me revient pas, c'était 2-3 volumes. Il y avait toute une collection, alors je vais pas vous aider aujourd'hui, les noms m'échappent, je suis un éditeur aussi, toute une collection de romans jeunesse, notamment plus ou moins horrifiques aussi à l'échelle des enfants. Donc notamment il y avait L'Ogre du métro aussi qui m'avait bien marqué, il y avait des illustrations en noir et blanc avec, qui étaient à mes yeux d'enfant très évocatrices aussi, j'étais vraiment plongé dans les ambiances. Et puis après, assez vite, des bandes dessinées aussi.
Et alors, sur le plan visuel, vous avez un souvenir d'une rencontre avec une œuvre d'art célèbre ? Ou pas célèbre, d'ailleurs ?
Célèbre, non. Alors, j'ai souvenir notamment ces illustrations de Rudiger, le petit vampire, qui est en noir et blanc, au trait, vraiment avec des hachures et tout. Il y a certains vampires qui est assez effrayant dans mes souvenirs.
Mais... Ouais.
Donc ça, c'est des dessins vraiment d'enfance qui me restent. Et après, il y a une toile d'un peintre russe, si je dis pas de bêtises. Alors ça y est, je vais oublier tous les noms aujourd'hui, ça va être super pour le podcast.
Grave, on mettra tout dans le sous-texte.
Voilà, ça représentait des drakkars, des navires vikings sur un fleuve, dans des couleurs assez éclatantes. Et j'avais vu ça à l'occasion, c'était donc en CM1, parce qu'on a fait un voyage au Danemark. Et c'est une toile qui m'avait vraiment marqué et que j'avais reproduite d'ailleurs à l'occasion.
Ouais. Vous pensez qu'on peut être marqué justement par des images enfants et qu'après on recherche un peu à les reproduire ou pas forcément?
Oui, sans nul doute. De toute façon, on est nourri, en tout cas pour moi, je pense que c'est pareil pour les autres pratiquants d'art graphique, par tout ce qui nous entoure, ce qu'on vit. Les émotions, c'est pas forcément des choses visuelles à proprement parler aussi, ça peut être un ressenti ou... Voilà, je sais, je garde en mémoire des images plus d'ambiance, en fait, plutôt que des images précises. Voilà, notamment à la campagne ou certains moments où, voilà, que j'essaie parfois de retranscrire aussi dans des dessins. Ou...
Les premiers dessins que vous avez faits, vous vous en souvenez ?
Oui, paradoxalement, assez bien. Donc, je reproduisais pas mal d'images de bande dessinée, en fait, que je lisais déjà à l'école primaire. Et souvent, je copiais un peu. Donc, c'était les BD que je lisais à l'époque. C'était Robin Dubois, Les Tuniques Bleues, ce genre de choses.
Ouais.
Assez vite Blueberry, et j'inventais des histoires, mais qu'on va dire très fortement inspirées de...
Et c'était facile pour vous de refaire les traits, de reproduire ou pas ?
Alors, de ma mémoire très lointaine, je dirais que oui. Après, bon, quand on est enfant, on est peut-être moins crispé aussi sur le côté beau dessin et compagnie. Donc ouais, d'ailleurs, je les ai toujours. Oui, j'abattais quand même pas mal de pages à raconter mes histoires, plus ou moins inspirées de ce que je lisais.
Et c'est à quel moment dans votre parcours scolaire que vous vous dites, là, dessinateur, quoi
Ça arrivait assez vite. J'ai voulu faire ça, je pense, dès le collège, à peu près. J'ai voulu être archéologue aussi. Mais bon, il y a certaines matières scientifiques où c'était un peu compliqué pour que je puisse aller dans cette branche. Mais bon, j'ai pu rebifurquer vers l'archéologie par la suite. On en parlera peut-être après, mais... Mais j'ai voulu très vite faire la bande dessinée, parce que surtout raconter des histoires, en fait, donc, par le dessin.
D'accord. Et là, comment vous vous dites ça va être possible ? Parce que c'est pas si simple que ça, finalement.
Non, déjà, quand on est enfant, je pense qu'on on se confronte moins aux réalités pratiques. Donc voilà, c'est pas venu tout de suite, mais j'ai voulu faire ça. Après, dès le collège, j'ai eu la chance d'être dans une classe en section art au collège Trois Fontaines. Avec Monsieur Fourgeot et Monsieur Hénon, où on avait, je crois, 5 ou 6 heures en plus du programme normal par semaine.
D'accord.
De pratique artistique.
Ouais.
Donc c'est vrai, ça c'était vraiment très chouette.
Ouais.
Et
Après le bac, alors. Après le bac.
Plus là, au moment du bac, on se dit, là, faut vraiment choisir les orientations professionnelles. Et je me souviens d'un moment d'angoisse, là, où c'était.
Oui.
C'est plus là où je me suis vraiment confronté.
Parce que là, vous allez vous rendre dans l'institut qui se trouve
à Bruxelles.
Saint-Luc, voilà.
C'est ça, oui. Donc en section bande dessinée.
Oui, immédiatement après le bac,
C'est ça, oui. C'est vraiment post-bac, juste après le bac.
Et là, vous apprenez quoi dans cet institut?
Alors, on apprend les bases de la bande dessinée, la narration, donc raconter une histoire par des cases, par des pages qui se suivent et que ce soit compréhensible. Donc, écrire un scénario, des cours de dessin. Donc là, on avait des super cours. Je me souviens même plus des cours, en fait, à côté de la bande dessinée, comme des cours d'anatomie.
Vous avez le sentiment d'avoir progressé rapidement.
Oui, vraiment, pour progresser, c'est vraiment un plus.
La couleur, c'est à ce moment-là ou pas ?
Alors oui, de la couleur, j'en faisais... C'est vrai que je l'ai vraiment développé à partir des études. J'en faisais un petit peu avant, mais j'étais vraiment plus sur le dessin. Mais on avait vraiment un chouette cours de couleur, notamment avec une de nos professeurs. Et là où on a vraiment fait des exercices très techniques qui peuvent paraître assez rébarbatifs, comme retranscrire toute la gamme colorimétrique d'une toile. Donc avec un petit carré, un trou dans un papier, puis aller chercher toutes les couleurs.
Ouais.
Donc dit comme ça peut paraître pas très passionnant, mais c'est... pour comprendre la couleur et voir les couleurs, les mélanges de couleurs dans une couleur qu'on voit, c'est vraiment un exercice.
C'est quelque chose qui vous sert encore aujourd'hui.
Ah oui, bien sûr.
Ouais, ouais. Et c'est quelque chose qui prend du temps à acquérir ou pas?
Ah oui, bah après, c'est comme, je pense, n'importe quelle pratique artistique ou une pratique sportive ou, mmh. ou musicale, ça va être une pratique constante. Mmh. Faut tout le temps dessiner. Mmh. Et voilà, c'est pas un boulot où on commence à 8h, on finit à 17h, et puis...
Mmh. Oui, on est obligé de pratiquer tout le temps pour se maintenir à niveau
Déjà pour acquérir un niveau suffisant pour prétendre être professionnel. Bon, ça se fait petit à petit aussi. Et maintenir le niveau, puis progresser, et puis essayer diverses choses, en fait, pas s'enferrer non plus dans une seule pratique.
Alors, la formation à l'Institut Saint-Luc, elle dure combien de temps?
Alors, c'est la formation de base, à l'époque, c'était 3 ans, et plus éventuellement une année de prépa, donc ça peut être 4 ans.
Ouais.
Je crois que ça a changé depuis, mais là, je saurais
pas. Non, mais vous,
dire.
Pour vous?
Mais pour moi, oui, ouais. Ça a duré 4 ans.
4 ans, ouais. Et après, quand vous sortez de cet institut, alors qu'est-ce qui se passe?
On est projeté dans le grand bain.
Voilà.
Donc, ça va être démarché pour essayer de choper des contrats, des boulots de dessin.
Ouais.
Là, c'est très compliqué, on n'a pas forcément de contact, de lien. Donc, c'est essayer d'aller voir des professionnels, donc montrer des dessins.
Mmh. Vous étiez tout seul à cette période-là? Enfin, dessinateur isolé, je veux dire, par là.
Oui. Ouais. Comme la plupart d'entre nous.
Je sais. Ouais. Mais après, il y a des regroupements par
bien
atelier.
Donc, quand je suis sorti, je suis retourné chez mes parents. J'ai bossé par intérim, donc il faut être jeune pour faire tout ça. Donc, bosser des boulots tout bêtes en usine, des choses comme ça, faire les 2-8 et puis à monter des projets à côté.
D'accord. Sans perdre espoir par rapport à votre pratique artistique.
Non, fallait.
Oui, oui.
Sans doute la folie de la jeunesse.
Aujourd'hui, maintenant, quand vous regardez ça à distance, vous dites c'était bien que j'ai fait aussi d'autres types de travail.
Oui, justement, je ne regrette pas du tout. Déjà, il fallait rentrer de l'argent et puis ça permet de se rendre compte de ce qu'on a vraiment envie de faire et de se dire non, j'ai pas envie de me retrouver à faire. Toujours le même travail à la chaîne ou ce genre de choses.
Ça vous a fait aussi découvrir d'autres univers, peut-être?
Oui, bien sûr, et de rencontrer d'autres personnes. Et se rendre compte vraiment que c'est ce que je veux faire, c'est du dessin.
L'atelier 510 TTC, ça arrive quand dans votre parcours?
C'est un peu plus tard que vous rencontrez. Donc après les études, tant bien que mal, j'ai eu des travaux d'illustration. J'ai fait pas mal de storyboard aussi pour quelques clips, des courts et moyens métrages.
D'accord, c'est intéressant comme travail le storyboard.
Oui, c'est passionnant. Déjà, ça oblige à une certaine rigueur parce qu'il faut travailler très vite.
Ouais.
Trouver les bons cadrages, déjà c'est un travail de collaboration, déjà ça prépare aussi pour la bande dessinée par la suite, par rapport aux desiderata des réalisateurs, ce genre de choses. Donc il y a plein de données techniques à prendre en compte, à retranscrire sur le papier.
D'accord. C'est un travail rapide, non? Enfin, qui demande de la rapidité?
Oui, ça demande de la rapidité. Après, le but, sauf demande très spécifique, ça demande pas un dessin comme un dessin de bande dessinée qui va être hyper finalisé.
Ouais.
C'est poser les plans, vraiment les cadrages, éventuellement les lumières.
C'était pas frustrant?
Non, j'ai vraiment...
Pas achevé, par exemple, ces
dessins? Non, parce que on sait aussi que ce travail demande ça. Et non, c'est une pratique très intéressante, mais la rapidité aussi oblige à trouver
le bon trait,
être le plus efficace possible, en fait, le plus rapidement possible. Donc, c'est vraiment un travail que j'ai... D'ailleurs, j'en ai refait un il y a quelques mois pour un long métrage qu'en préparation.
Et vous avez retrouvé la fibre?
Oui, après, dans l'absolu, ça ressemble beaucoup au storyboard pour la bande dessinée aussi, il n'y a pas de différence énorme, il y a beaucoup de ponts entre les deux après.
D'accord. Et alors la rencontre avec Hervé Loiselet, elle se fait dans cette période-là ou plus tard?
Oui, elle s'est faite peut-être à peu près un an que j'ai mis les pieds à l'atelier 510. Donc c'est grâce aux collègues de l'atelier, je crois qu'ils l'avaient rencontré à Angoulême. Et Hervé cherchait un dessinateur pour l'un de ses projets. Et donc ils ont parlé de moi, Hervé a regardé, on est entré en contact, j'ai montré des dessins. Je crois que les collègues en avaient montré déjà aussi. Ça lui a plu, puis ça a démarré comme ça,
Alors, on va rembobiner un petit peu. Donc, l'atelier 510, ça s'est fait comment? Et qui y participe?
Donc, l'atelier 510, on va dire les toutes premières fois, ça remonte, j'étais encore lycéen. Donc, on est avec des copains de lycée, on dessinait, on allait leur montrer de temps en temps nos productions, puis pour avoir des conseils. Et donc ensuite, avec des copains, à l'époque, on n'était pas copains, on se connaissait pas, mais ça s'est fait petit à petit, on a monté un premier atelier, l'atelier point d'interrogation. Et donc, on s'est installé au bout d'un moment dans le même bâtiment que l'atelier 510 TTC, donc au même étage. Donc, on allait les voir aussi, demander des conseils. Après, notre atelier s'est arrêté, notamment parce que des personnes ont déménagé et tout. Donc voilà, ça n'a pas duré. Et donc, je suis retourné travailler tout seul. Et puis, bah, après, il y a un copain qui est rentré à l'atelier 510. Et puis après, par ce biais, en fait, voilà, je continue à aller montrer des dessins. Ils m'ont proposé un jour d'intégrer l'atelier. Voilà.
C'est une cooptation, alors ? On peut dire ça dans un atelier ?
Bah, l'atelier, en tout cas pour l'atelier 510, ça a toujours marché comme ça. Enfin, à ma connaissance, que je n'étais pas là au tout début, mais de ce que j'en sais. C'est voilà, c'est par des contacts, des personnes qu'on connaît, qui viennent régulièrement. Et puis quand on sent qu'il peut y avoir un bon feeling, ou quand on apprécie aussi le travail des personnes qui viennent, ben, éventuellement, s'il y a une place de libre, on propose à la personne de poser ses...
Et alors, qu'est-ce que ça vous a apporté à l'époque d'être dans cet atelier ?
Bah déjà, un cadre, donc voilà, de travail. Bon, même si j'arrivais quand même relativement bien à travailler... Voilà, de mon côté, mais voilà.
De l'espace, c'est... peut-être? Plus d'espace pour travailler?
Oui, après, pas forcément. Dans le premier atelier, on était un peu plus serré, mais bon, on avait quand même chacun notre coin.
Parce que vous avez quand même des grandes planches, enfin, des grands bureaux,
oui,
non?
Oui, des grands bureaux, mais bon, après, ça dépend. Oui, une table à dessin, ça peut être assez imposant, mais bon, il y a tout qui tenait quand même. Et donc, oui, ça fait un cadre, ça a aussi un regard extérieur, même si c'est pas toujours évident, surtout quand on débute, de montrer son dessin, d'avoir quelqu'un qui regarde par-dessus l'épaule, mais bon. En tout cas, ça fait partie des choses quand même positives de l'atelier. Voilà.
Et dans l'atelier, il y a plusieurs métiers, en fait, représentés.
Oui, en fait, il y a toujours eu tous les métiers de la bande dessinée. Donc, bah, il a été fondé, entre autres, par Jean-David Morvan, donc scénariste de bande dessinée. Il y avait Sylvain Savoya, dessinateur, Philippe Bucher, dessinateur. Il y avait Kevin Hérault, aussi, 34, donc, au début. Christian Leroll, le coloriste, qui était Color Twins à l'époque avec un collègue. Donc voilà, il y a toujours eu les métiers, il y a encore tous les métiers actuellement de la BD.
C'est une force d'être tous ensemble, vous pensez, ou pas ?
Oui, bah après, c'est une force notamment, par exemple, aussi pour les réseaux, les contacts, qu'on, qu'on peut mettre en biais, enfin, en synergie. Voilà, quand l'un d'entre nous cherche, n'importe quoi, un contact de coloriste ou de scénariste et tout, bon, bah, voilà.
Vous pensez tout de suite cette...
Donc voilà, c'est une sorte de bouillon de création.
Alors, on revient à Hervé Loiselet, donc, que vous avez rencontré. Et en fait, c'est votre première vraie collaboration, on peut dire, ou pas ?
Oui, en bande dessinée, oui. C'est mon premier album paru.
Pour en plus un grand éditeur.
Oui, ben, c'est vrai qu'on a eu la chance de signer au Lombard dans la collection signée. Donc c'était plutôt chouette.
Alors, vous rappelez de quoi sur cette première collaboration ? C'était impressionnant ? Enfin, je veux dire, ça a été facile de trouver ces marques ?
Bah, il y a le démarrage, et toujours, bah, surtout quand c'est un premier album, et peut-être un peu laborieux, hein, le temps de trouver la bonne méthode, choper ses personnages. Voilà, donc oui, le début. Après, j'ai plus de souvenirs hyper précis, je dois avouer.
Mais... Lui, il avait déjà de l'expérience.
Oui, Hervé, il avait déjà une paire de bouquins derrière lui. Il avait travaillé dans la presse, dans l'édition aussi. Il avait déjà un bon bagage.
Ça vous a aidé ou pas qu'il ait cette expérience ?
Oui, bah, il avait déjà, déjà une méthode. Voilà, oui, bien sûr, ça aide. Hein. Donc, ça peut avoir un côté rassurant aussi. Et donc, ça s'est bien passé. Puis, voilà, on a fait 400 bouquins ensemble. Puis, bon, on a d'autres projets.
C'est une collaboration qui ne s'est jamais arrêtée complètement, finalement.
Oui, bien sûr. Après, il peut y avoir des moments de flottement ou d'arrêt, mais c'est pas parce qu'on n'a plus envie, c'est parce que ben, forcément, on a aussi d'autres projets personnels qui peuvent venir s'insérer. Je sais qu'Hervé, il a fait pas mal de choses dernièrement aussi de son côté, donc là, on a repris un petit peu contact éventuellement pour refaire autre chose, mais voilà, c'est pareil avec d'autres scénaristes. Voilà, les contacts se refont, se défont, et c'est...
Comme des histoires d'amour. Alors maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail le processus créatif par lequel vous passez en tant que dessinateur. Et la première chose qu'on va essayer de comprendre, c'est un petit peu comment vous vous préparez en fait sur un projet. Quel que soit ce projet, même si on va évoquer les différents albums que vous avez pu réaliser, est-ce qu'il y a d'abord une recherche préalable à tout projet ? tout scénario. Une recherche documentaire, je pensais.
Alors, oui, idéalement, oui.
Oui.
Donc ça va varier selon les projets, bien entendu, hein, selon le degré d'historicité, ou même si le sujet demande un sujet très pointu sur un domaine en particulier qui peut demander beaucoup de documentation. Mais oui, il y a toujours un travail de préparation en amont pour déjà se plonger dans l'univers, dans l'époque, si on retranscrit une époque, une époque présente.
Hein, ça vous arrive souvent dans vos albums, hein,
souvent en lien avec l'histoire. Voilà. Donc oui, il y a toujours un travail de documenter. En plus, depuis tout petit, j'aime bien l'histoire, donc c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi.
Ouais. Vous avez parlé d'archéologue tout à l'heure, ou d'archéologie.
Oui.
Est-ce que ça a un lien justement avec la recherche documentaire, ou mieux se repérer dans le...
Pour les albums.
Oui, pour les albums.
Non, là, pas forcément. Enfin, ça va dépendre des projets, mais... Mais donc, oui, donc, il y a un gros travail... Enfin, un gros, ça va dépendre des bouquins, et du temps qu'on a en amont aussi, parce qu'il y a certains bouquins, on en reparlera peut-être, où, en gros, on en a parlé, il a presque fallu se lancer dedans tout de suite, donc là, il n'y a pas trop le temps de travailler en amont.
Ouais.
Par contre, pour d'autres bouquins, ça a traîné pendant un moment, donc là, il y a vraiment...
On cherche la véracité historique ou pas ? Je pense, alors il y en a un, c'est sur les Vikings, l'autre c'est l'octobre 1917.
Oui. C'est un bon exemple, ces deux-là, parce que c'est deux approches vraiment différentes. Mm. Celui sur les Vikings, Sigurd et Vigdis, donc scénarisé par Hervé, c'est pas un récit historique en tant que tel. C'est dans une période historique, donc la période viking, mais le but c'était pas de retranscrire un événement historique particulier, où donc il y a un côté même un petit peu mythologique sur la fin, et donc... Voilà. Après, dans mon travail de dessin et de recherche, j'ai voulu retranscrire quand même l'époque. Donc, de la meilleure manière possible, j'ai fait des recherches. Voilà, retranscrire les vêtements.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a des objets,
les objets usuels, les armes,
meubles,
voilà, les navires, toutes
les
ces choses-là. Donc ça, j'ai essayé d'être quand même, voilà, correct et juste. Mais voilà, le but, c'était pas de faire un récit historique. Par contre, octobre 17, là, le but, c'était vraiment un album documentaire où là, il fallait vraiment être juste. Il y a pas de part de fiction. Il y a juste deux personnages fictifs pour servir un peu de fil rouge pour le lecteur, mais là, c'était vraiment retranscrire des événements historiques. Donc là, c'était vraiment une approche vraiment différente. Par contre, en amont, pour moi, le travail de recherche est finalement pas si différent. Après, je fais des erreurs et je me trompe comme tout le monde, mais on va dire que j'essaie d'être aussi sérieux dans des recherches documentaires pour une fiction ou pour un album documentaire.
D'accord.
Après, pour Octobre 17, là, pour celui-ci, c'était assez particulier. C'est l'éditeur qui est venu vers moi pour le faire. Ça a dû se faire très vite. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de me plonger en amont dedans. Mais par contre, l'éditeur m'a fourni beaucoup de documentation.
Alors, ça peut être quoi, ces documentations ? Ça peut être vidéo, ça peut être des photographies, des essais ?
Alors, c'est beaucoup de photos. Pour Alors, des photos, notamment pour les Vikings, de pièces archéologiques. Après, il y a des illustrations de livres d'historiens. Après, ça peut être assez varié. Pour Octobre 17, il y avait beaucoup de photos aussi, des événements. Après, des photos d'objets ou qu'on retrouve sur le net. Croiser au maximum les sources pour éviter de faire trop de bêtises. Pour essayer d'être le plus juste possible. Et après, quand on a le temps, ça peut être aussi des récits. Après, il y a certains sujets comme la guerre de sécession pour Virginia, scénarisée par Séverine. Ou les Vikings, là c'est des sujets qui m'intéressent depuis des années aussi, donc j'ai une grosse masse de documentation de mon côté. Et sans prétendre spécialiste, j'ai, on va dire, une base de connaissances sur ces sujets-là. Donc ça aide aussi à mettre le pied dedans et à démarrer.
Il y a une relecture par des spécialistes ou pas forcément, ou ça vous préoccupe pas ça ? C'est pas quelque
chose
qui...
après on a des retours parfois sur des critiques sur les albums ou sur des sites plus ou moins spécialisés où on peut voir que des personnes ont noté telle ou telle chose et tout, mais durant le processus de création, en tout cas, dans mon cas, non, il n'y a pas eu...
Pas présenté.
Après, je sais que pour certains albums ou certaines collections, il y a vraiment des historiens qui sont impliqués
Vous pouvez solliciter, pardon.
Voilà. Ouais. Par contre, pour Octobre 17, il y a Patrick Rothman, donc, au scénario, que tout le monde connaît, je pense, ou presque. Donc là, il connaissait son sujet aussi, donc là, il y a...
Vous pouviez l'interroger pour avoir des détails.
Voilà, tout à fait. Et puis, il maîtrisait son affaire.
Ma question va peut-être vous paraître bizarre, mais parce que je ne suis pas dessinatrice, mais quand vous regardez une photographie, vous regardez quoi ? Quand vous regardez un document, vous regardez quoi quand c'est illustré ? Qu'est-ce que vous allez chercher d'intéressant, visuellement ?
La réponse peut être ça dépend. Parce que selon l'élément qu'on cherche à l'instant T, ou ça peut être un objet précis. Donc dans une photo d'ensemble, ça peut être... Je dis n'importe quoi, je repense à Virginia, ça va être un élément d'uniforme ou ça va être un objet.
Ça peut être aussi des formes de visage, des formes de corps,
oui,
ou de posture.
Oui, voilà, une attitude, une posture, ou ouais, une allure générale dans les vêtements, par exemple, pour les époques passées, où on va porter les vêtements de manière différente, et ça va donner une allure générale différente. Par exemple, des pantalons qui pouvaient être portés très haut. Mmh. Donc ça va donner des proportions différentes sur un personnage, une façon de se tenir différente.
Ouais.
Sur d'autres photos, on va chercher une ambiance, plutôt. Voilà, essayer de choper l'ambiance de l'époque, une atmosphère. Mmh. Donc c'est très variable, selon ce qu'on peut rechercher.
Vous pensez que vous avez désormais une espèce de banque de données dans votre cerveau sur...
Oui, il y a de ça. Puis après, au fil des années, que ce soit dans mes bouquins ou sur l'ordinateur, j'ai après des dossiers, des trucs classés et tout.
D'accord. Donc, que vous allez reconsulter?
Oui, oui. Ça,
ouais, ça, c'est ça, quelque chose qui vous sert
arrive, ouais. Après, j'ai des dossiers aussi plus artistiques où j'ai... des dizaines de voire des centaines de dossiers sur des artistes en particulier, des peintres ou des illustrateurs, ou des graveurs, ou des photographes.
Qui vous inspire?
Qui m'inspire, oui.
D'accord. Donc, vous avez des exemples de personnes?
Alors,
peut-être en tête,
ouais,
voilà, c'est vaste.
Oui, bah par exemple, je sais pas, ça peut aller de Félix Vallotton à en passant par Félicien Rops, Maynard Dixon, Édouard Vuillard. J'ai pas mal les impressionnistes pour les couleurs, j'y retourne assez souvent.
C'est des auteurs qui vous inspirent, en fait, c'est ça? Par le trait ou par la couleur?
Oui, par la couleur, par les ambiances qu'ils peuvent retranscrire aussi. Parfois, ça peut sembler étrange, mais il y a des artistes que je vais aller voir, mais ou mon dessin, quand on va comparer mon dessin à côté, ça va finalement rien avoir, mais je sais pas, il y a quelque chose dans ce qui dégage de leur œuvre, de l'ambiance et tout, qui va m'inspirer. Donc, les romans aussi, l'air de rien, ça, je lis beaucoup de romans. Et ça m'inspire aussi, parce que quand on lit, il y a aussi des images, des ambiances qui ressortent.
Tout à fait. Il y a un type d'auteur, après, qui aime plus utiliser les images que d'autres. Mais
voilà, donc après, c'est un mix des deux. Puis selon les projets, selon l'humeur du moment aussi, c'est très fluctuant.
Tout à fait. Alors, donc, il y a la recherche documentaire. Je me disais aussi, il y a peut-être une phase de recherche du trait de personnages principaux, quand ils sont imaginaires. Hein, parce que quand ils sont historiques, c'est
Même quand
différent.
Ils sont historiques, l'air de rien, on doit les retranscrire de manière graphique. Donc, il faut quand même faire des essais, des recherches pour essayer de les choper.
D'accord.
C'est même plus dur, pour moi.
Ah oui, vous trouvez que c'est plus dur?
À représenter des personnes réalistes qui ont existé, oui.
Ouais.
Parce que surtout, encore copier une photo, on va dire, où la personne pose, on va dire c'est encore faisable, mais dès qu'il va falloir les mettre en action, les faire vivre, leur donner des expressions qu'on n'a pas forcément sur les photos
qui existent. Oui, tout à fait.
Mais
c'est plus complexe.
Enfin, pour moi, en tout cas, d'autres dessinateurs vous diront peut-être qu'ils y arrivent facilement, mais pour moi, c'est...
Ouais. À la limite, ceux qui seraient plus contemporains en vidéo, vous pourriez avoir
un aperçu.
Oui, on
peut aller les choper,
non, c'est pas...
Et après, c'est de réussir à intégrer des personnes réelles, dont on va copier les portraits, dans l'univers graphique, d'autres personnes, par exemple, que là, on va inventer.
Oui.
Parce que le risque, c'est qu'on voit un décalage entre la personne qu'on... Ah oui, tiens, lui, il a pris une photo pour le faire, mais pas celui-là.
Ah oui, voilà. Donc, il faut que ça cadre avec les autres personnages.
Essayer d'unifier la personne réelle dans l'univers dans lequel il s'inscrit.
Tout à fait. Et là, on est obligé de sortir un peu de ce qu'on fait d'habitude, ou pas forcément?
Oui, ou essayer d'intégrer cette personne
dans son propre univers.
C'est assez variable.
Et pareil pour la couleur, je ne sais pas si ça se fait dans ce travail de préparation, mais est-ce que vous réfléchissez déjà à la couleur au tout départ ou pas forcément?
Oui, alors pour mon cas, en tout cas, oui, parce que surtout j'utilise la couleur vraiment comme un élément narratif, travailler avec des ambiances, pas juste faire le ciel est bleu et l'herbe est verte, vraiment essayer de faire des ambiances de couleurs. Et donc, si on regarde mes albums, souvent, il y aura vraiment des séquences où il y a une couleur générale qui va se dégager.
D'accord. Donc, ça, c'est un choix de départ. Hein,
oui, ça, c'est un choix vraiment de départ. Je pense, dès le storyboard, dès la préparation, là, je me dis, tiens, là, il va y avoir telle ambiance. Et après, il peut y avoir des changements en cours de production. Là où je me dis, finalement, ce sera mieux de faire telle ou telle couleur. Donc, bien sûr, tout n'est pas figé, gravé dans le marbre dès le début. Mais c'est quand même préparé.
Vous êtes libre par rapport à ça ou pas?
Ah oui, bien sûr.
Complètement libre.
Après, j'en parle bien sûr avec mon binôme, avec ma scénariste, mais je suis quand même libre de tout ça.
Parce qu'on pourrait vous dire, je n'aime pas trop ces couleurs. Enfin, vous voyez, l'éditeur ou le scénariste pour dire, je suis pas...
Non, généralement, j'ai jamais eu trop de soucis.
Vous
n'avez
pas à concilier, pas à négocier, c'est ça que je voulais dire par là.
Ou sur des points de détail, jusqu'ici, non, il n'y a pas eu trop de soucis.
Alors, alors la deuxième phase, je vais caricaturer, hein, je n'ai pas d'expertise, mais on va réaliser donc les planches. Donc vous avez parlé de storyboard. Est-ce que on fait un storyboard à chaque fois ou pas?
C'est mieux, oui.
C'est mieux. Ah oui, alors expliquez-nous, parce qu'on est néophytes.
Voilà, parce que donc un album, c'est très cadré, c'est très technique finalement. Du fait de l'objet livre, on va avoir un nombre de pages limité.
Auquel il faut se tenir.
Voilà, il y a des cahiers d'impression. Bon, là, on va peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais la façon de fabriquer les livres, on a un nombre de pages limité, en fait.
C'est toujours le même pour chaque album ou pas forcément?
Ça va souvent être, on va dire pour les albums standards, ça va être 46 ou 54 pages. Après, ça va être des multiples de 8 pages. Hein. Enfin, souvent, c'est les cahiers d'impression. Voilà, ça va être 8 pages.
Ouais.
Donc voilà, puis après, on peut augmenter presque indéfiniment.
Donc il y a une histoire à raconter.
Voilà, qui doit tenir dans un nombre de pages données. Donc déjà, c'est la première phase, c'est le travail du scénariste. Donc il va découper son récit, il va faire un chemin de fer avec les séquences principales.
D'accord.
Donc là, il y a déjà tout un travail de séquençage de l'histoire. Et savoir quelle séquence, ça va prendre par exemple 3 pages, la suivante, elle va prendre 8 pages. Celle d'après, ce sera peut-être 3, puis l'autre 12.
Ça, c'est lui qui fait ce partage-là.
Voilà. Après, ça peut être fait. Alors, c'est selon après les synergies qui entre les auteurs. Le dessinateur peut intervenir aussi à cette étape, vraiment être plus présent dans l'étape d'écriture. Là, ça dépend vraiment des façons de travailler de chacun.
Écrit globalement, si je comprends bien, ce qui va se passer dans 4 pages. Enfin, il dit 4 pages, il va se passer ça.
Sur tout l'album.
Jusqu'au bout.
D'accord. Voilà, il y a vraiment le chemin de fer qui est fait du début à la fin.
Ouais.
Comment ça commence, comment ça se développe, comment ça se termine.
Mais si vous, par exemple, vous avez besoin de plus de pages pour raconter tel passage. Alors, ça se passe comment?
Là, il faut faire avec le nombre de pages de l'album. Donc, éventuellement, après, on peut en discuter avec le scénariste où on va dire, tiens, là, il faudrait peut-être décaler certaines choses.
C'est compliqué comme travail, ça, justement
Ça peut être complexe si, ouais, il y a beaucoup d'éléments à décaler, à enlever. Ça va dépendre aussi. On en revient toujours à ça, en fait, ça va dépendre des personnes qui travaillent ensemble. Certains scénaristes vont donner un boulot qui est fini, hyper carré, et c'est comme ça. D'autres vont être plus souples,
flexibles. D'accord.
Donc,
vous préférez quoi? Vous que ce soit très carré ou que ce soit
alors
flexible?
Alors moi, j'aime bien qu'il y ait une certaine souplesse. Donc, jusqu'ici, j'ai eu la chance de travailler avec des scénaristes qui me laissent une certaine latitude où ils m'envoient leur scénario. Donc, il est quand même bien carré, bien découpé. Et moi, je vais avoir une certaine latitude à choisir mes cadrages, à ajouter ou enlever des cases si nécessaire. Voilà, parce que vraiment, entre ce qui est écrit par le scénariste et ce qu'il faut mettre en image, parfois, il peut y avoir des petits points, des anicroches, où il va manquer des cases pour bien développer une action.
Vous pouvez avoir une interprétation différente de l'action, visuellement.
Voilà, bien sûr. Donc ça, c'est le travail de mise en scène qui intervient en storyboard. C'est vraiment mon étape préférée. Parce que c'est là où on conçoit vraiment le récit. Où on pose le rythme, les ambiances, toutes ces choses-là. Donc j'aime vraiment faire ça. Donc là, j'aime bien avoir une certaine liberté.
D'accord. C'est un travail de dessin inachevé. On est d'accord. C'est du dessin rapide.
Oui, c'est du brouillon, alors qu'il est plus ou moins rapide, plus ou moins précis. Moi, j'aime bien quand même détailler mes storyboards, mais c'est aussi parce que cette étape me plaît. Je pourrais faire un peu moins, mais voilà, c'est parce que j'aime aussi faire ça, donc je le détaille quand même pas mal. Mais voilà, mais ça reste une étape transitoire qui est censé être vraiment intermédiaire. Après, le travail final, c'est sur l'album, sur les planches. Et donc, oui, pour revenir à cette collaboration, voilà, on peut ajouter des cases, en enlever, vraiment choisir les cadrages, mais voilà ça. Après, il y a certains dessinateurs qui veulent que tout soit hyper décrit. Eux, ils n'ont plus qu'à dessiner. Voilà. Mais ça tient au choix de chacun. Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne solution. Chacun gère. La chose que je me permets pas de retoucher, par contre, c'est les dialogues. Ça, c'est vraiment le travail du scénariste.
Voilà.
Éventuellement, si j'ai une interrogation ou une remarque, je vais en parler, et puis on en discute, et éventuellement, il peut y avoir un changement. Mais de mon propre chef, je vais pas retoucher des dialogues ou les réécrire.
D'accord que sur une planche, donc, c'est vous qui allez définir ce qu'on voit.
Oui.
Voilà, donc lui, il a écrit seulement la scène.
Oui, alors c'est déjà préparé. Alors c'est pas, je vais toujours redire la même chose, ça dépend du scénariste.
Voilà.
Certains vont présenter ça presque comme un roman, où voilà, ça va être, on aura les dialogues, on a l'histoire qu'à raconter, mais sans trop de découpage case par case.
Sans focal, en fait.
D'autres, et ceux avec je travaille la plupart du temps, ça va plus prendre la forme de tableau. On va avoir un tableau par page, ou par planche, comme on dit en bande dessinée. Avec le nombre de cases, une colonne qui décrit ce qu'il y a dans la case, donc ce qu'on va voir, ce que le dessinateur va devoir représenter, et une colonne avec les dialogues.
D'accord.
Et à partir de là, on fait la mise en image.
Ouais.
Et c'est là où je disais, après, bah, le dessinateur peut éventuellement ajouter ou enlever une case, ou
d'accord.
Il faut vraiment choisir son cadrage.
Et comment se fait votre choix d'ajouter ou d'enlever ? C'est-à-dire que vous avez la lecture de ce scénario, oui. Donc de tableau, hein, vous avez expliqué, et comment vous dites, bah, ça, je vais devoir le faire ressortir comme ça, ou ça, je vais devoir faire un dessin plus ou moins gros sur la planche
Bah, c'est en le disant, on va se rendre compte que sur telle ou telle page, par exemple, bah, j'ai manqué un peu de place pour montrer le moment très important de la page. Souvent, sur une page, il y a une case qui est vraiment importante. Voilà, mm-hmm. Il va y avoir un peu le climax ou
oui.
Ce genre de truc.
Il y a le côté caméra quand même. Là on se rapproche de la réalisation d'un film. C'est-à-dire, où est-ce que vous allez placer votre caméra ?
On place la caméra où il faut emmener l'œil du lecteur pour voir la chose importante. Que ce soit fluide aussi, donc qu'on passe bien d'une case à l'autre.
Mmh.
Donc voilà, parfois, on va presque faire comme des travelling aussi, comme au cinéma.
Ouais.
Sauf que on n'a pas un mouvement de caméra comme à l'écran, mais ça va être de case à case.
Mmh.
Donc tout ça, c'est ce qu'on soit au moment du storyboard. Et parfois, entre ce qu'a écrit le scénariste et ce qu'il faut mettre sur la page, lui, il va peut-être manquer de place, ou il y aura trop d'action dans une case. Parfois, ça peut arriver, où il se passe trop d'action dans une case, c'est pas très lisible, pas évident à représenter, donc à faire découper un peu plus, donc ajouter des cases pour
d'accord.
rendre ça lisible.
De toute façon, on n'entre pas dans le vrai travail, enfin dans le travail de réalisation définitif, tant que ce storyboard n'est pas réglé.
Ah oui, ça c'est primordial, ça c'est vraiment toute la mécanique et l'architecture de l'album. Si un album il est superbement dessiné, mis en couleur, mais que en fait on comprend pas ce qui se passe, l'histoire est mal racontée, on comprend pas ce qui se passe d'une case à l'autre, d'une page à l'autre, on reconnaît pas les personnages et tout. En soi, c'est mon point de vue. Après, d'autres auteurs vont peut-être dire que je dis des bêtises et tout, mais c'est un album qui est pas réussi. Parce qu'avant tout, on raconte une histoire qui doit être compréhensible par le lecteur. On n'est pas au-dessus de l'épaule de chaque lecteur à lui dire, là, il se passe ça et il se passe. Donc, il faut que l'album, ce soit une mécanique, c'est une horlogerie, ça doit bien fonctionner. Donc ça se fait au moment du storyboard. C'est vraiment que tout soit carré, qu'on comprenne ce qui se passe. Donc là, c'est presque l'étape où il faut passer, je vais pas dire le plus de temps, parce qu'après, la réalisation des pages est très longue.
Oui, aussi. Mais c'est pas le même travail.
Voilà, c'est vraiment une étape où on passe beaucoup de temps dessus. En tout cas, avec mes scénaristes, c'est là où... Et une fois que tout ça est au point, on travaille, on commence l'étape finale des pages. Alors parfois, l'album n'est pas forcément storyboardé d'un coup. Ça va souvent être par séquence. Le scénariste, il va commencer à écrire, il va fournir une séquence, je dis n'importe quoi, de 20 pages. Le dessinateur scénarise ça, c'est au point, je commence les pages finalisées, et le scénariste continue d'écrire la suite.
Ah.
Après, il m'envoie ça au fur et à mesure, et puis je storyboard au fur et à mesure.
C'est pas dangereux de faire ça? Enfin, si jamais on se plante, non?
Ben, si le scénariste a bien fait son chemin de fer en amont, donc il sait vraiment combien de pages vont prendre chaque séquence, dans l'absolu, il ne devra pas y avoir de problème.
Oui, alors justement, pour continuer sur cette histoire de scénario, est-ce qu'on dessine forcément dans le sens de l'histoire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas concevoir des parties du milieu du scénario avant le début, avant la fin, ou est-ce qu'on essaie de suivre le déroulement de l'album ?
Alors là, je peux pas parler pour tout le monde, et surtout pour tous les scénaristes. Je me suis...
Ça vous est jamais arrivé en tant que dessinateur ?
Non, même en termes de praticité, pour vraiment se plonger dans le récit. On a toujours travaillé dans
le sens,
la continuité du récit.
Voilà. Peut-être pas dans la réalisation finale, par contre.
Alors si, je sais que certains dessinateurs peuvent aussi travailler des bouts dans l'ordre différent. Moi, je préfère travailler dans l'ordre, notamment pour la façon de tenir les personnages, parce que souvent, en début d'album, on tient pas forcément toujours bien ses personnages, et ça évolue. Si on regarde bien des albums, souvent, on peut voir une évolution dans ce genre de choses. Et si on commence par la fin, et par le début, il peut y avoir des évolutions un peu bizarres. Mais là, pareil, il n'y a pas de règle absolue. Des dessinateurs peuvent commencer par le début et finir après par une autre partie. Moi, j'ai toujours travaillé dans l'ordre.
Et c'est intéressant ce que vous dites sur la maîtrise du trait. Du coup, ça vous donne pas envie de refaire les premiers dessins?
Ça peut être un risque de toujours vouloir revenir sur l'ouvrage.
Et se dire, j'avais pas très bien réussi tel ou tel personnage.
Mais voilà, faut se dire que ça fait partie du travail. On regarde des fois certaines cases, on se dit, oh, celle-ci, elle est quand même vraiment pas terrible. Puis après, on prend du recul, on se dit, dans la page complète et dans le récit complet dans l'album, finalement, ça passe. Il y a des choses qu'il y a que nous, on voit, le lecteur, il va pas forcément focaliser.
C'est-à-dire que vous allez tellement regarder le dessin, que vous voyez sûrement des choses qu'on pourra jamais voir.
Et souvent, quand on regarde nos anciens albums, on a parfois du mal à les voir, on se dit, ouais, c'est quand même pas terrible. Mais en même temps, c'est très bien parce que on se dit, tiens, j'ai évolué. C'est bien aussi. Donc on voit aussi la progression dans notre travail. Hein. Donc ça a ce côté positif aussi. Et il faut se dire que ça fait partie de notre production et de notre bibliographie. Et puis voilà, c'est comme ça. Et de toute façon, quand on a commencé, on pouvait pas être aussi compétent que là, aujourd'hui. Et il faut se dire, on espère que dans quelques années, on fera encore mieux. Et voilà, c'est un moyen d'avancer.
Enfin, on garde quand même une marque de fabrique, j'imagine, dans le trait. On reste un peu soi-même.
Oui, même après, quand on essaie des techniques différentes, quand on essaie d'autres choses, généralement, on retrouve quand même, une patte, on va dire, dans le travail.
Oui. Par rapport aux scénaristes, je voudrais savoir combien de fois vous vous rencontrez. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la question il y a beaucoup de communication ou pas entre un scénariste et un dessinateur?
J'aurais dû enregistrer cette réponse. Ça dépend. Ça peut être un jingle pour l'épisode. L'épisode, ça dépend. Il y a des scénaristes que j'ai jamais vus.
Ah oui? Visu. Jamais.
On s'est seulement parlé par téléphone ou par mail. Des fois, il y a l'éloignement géographique qui n'aide pas. Ou des albums qu'il a fallu faire très vite, ça aide pas. Et d'autres que j'ai vus une ou deux fois dans la réalisation de l'album. Après, forcément, le scénariste que j'ai le plus rencontré, c'est Séverine, qui est à son bureau.
Oui, juste à côté, voilà.
Deux mètres du mien,
à l'atelier, voilà.
Mais Hervé, c'est vu quand même une paire de fois, mais...
Vous échangez sur quoi quand vous vous voyez plus précisément? Est-ce qu'il y a un ordre?
En premier lieu, ça va être sur le récit. Le scénariste va m'envoyer son scénario, donc que je vais lire. Hein, c'est conseillé.
Oui.
Donc après, je vais faire mon retour.
Oui.
Et puis après, ça va être les échanges sur le storyboard. Le scénariste va me dire, ça c'est bien ou pas.
D'accord. Et vous, pareil, vous faites la même chose de votre côté.
Voilà. Après, c'est un jeu de ping-pong, d'aller-retour. C'est vraiment une collaboration à toutes les étapes.
Oui. Et quand vous êtes dans la réalisation. Il vient prendre des nouvelles ou pas? Parce que là, vous êtes un peu tout seul, là, vous finissez tout seul.
Oui, de toute façon, moi, j'envoie souvent quand je finis une page, ou par paquet, on va dire, 2-3-4 pages, je les envoie. Donc, normalement, si tout se passe bien, le scénariste a des pages régulièrement durant la production.
Et là, peut y avoir à nouveau renégociation, discussion.
Ah oui, bien sûr, de toute façon, à toutes les étapes, il y a discussion et échange, donc... il va me dire s'il y a des choses qui lui conviennent pas ou si c'est bien, s'il est content. Après, c'est envoyé à l'éditeur qui lui aussi peut faire son retour.
Ouais. C'est quand ça convient pas, ça porte sur quoi, par exemple, pour qu'on ait une idée de ce qui peut ne pas fonctionner en collaboration.
Ça peut être sur le rendu du physique d'un personnage, sur le rendu de la couleur, de l'ambiance colorimétrique. Après, plus rarement sur le cadrage ou la case générale, parce que ça, normalement, ça a été bien calé au storyboard. Donc, là-dessus, normalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, ce sera plus sur une tête de bonhomme ou un dessin qui peut être un peu limite, un peu foireux.
Il est arrivé qu'au milieu d'un album, vous vous disiez tous les deux, pas que là, que ça va pas, que franchement, vous êtes pas du tout dans l'histoire ou que ça rend pas ce que vous aviez espéré.
Non, il y a pu y avoir des débuts d'album un peu compliqués, un peu difficiles, mais non, une fois que... C'est-à-dire que les 5 ou 10 premières pages sont passées, normalement, c'est...
C'est bon signe, on va arriver au bout. Ça n'existe pas un album inachevé.
Non, ou alors ça peut être du fait d'un choix éditorial, parfois.
Après, c'est l'éditeur qui vous lâche.
Tous les auteurs pourront vous sortir des histoires, où il y a des albums qui sont jamais sortis, ou qui ont été finis et qui finalement n'ont pas été publiés.
D'accord. Alors là, c'est l'horreur, j'imagine, parce que ça représente des heures heures de travail.
Et puis finalement, sont...
Vous avez déjà compté combien ça faisait d'heures de travail ou pas?
Vaut mieux pas.
Vaut mieux pas.
Vraiment par heure, non, j'ai jamais compté, mais après, ça se compte en mois.
En mois? Combien de mois, alors, pour la réalisation d'un album, si vous avez une idée?
Quand tout se passe bien, qu'on a du temps et tout, on va dire on met à peu près un an pour faire un album.
D'accord.
Mais après, ça peut être beaucoup plus court. Je sais que j'ai déjà fait des bouquins en 4 ou 5 mois, en 6 mois.
Et ça signe une qualité ou pas forcément? La longueur, le temps?
Oui, quand même, oui, parce que on a plus le temps pour se poser sur, pour fignoler le dessin, la couleur.
Ouais.
Alors que quand faut aller très vite, faut aller très vite. Alors après, ça peut avoir certains aspects positifs où il faut, pas comme le storyboard pour le cinéma, où il faut trouver des solutions graphiques, aller à l'efficacité, et donc ça peut permettre de trouver des solutions intéressantes qu'on peut réinjecter après dans les projets où on a plus de temps et où ça se passe mieux, quoi, en fait.
Alors le fameux timing, c'est l'éditeur qui le fixe? C'est lui qui dit vous aurez tant de temps.
Lui, parce que l'éditeur, lui, il a tout un catalogue. Donc en amont, il doit prévoir toutes ses sorties et notamment les réservations chez l'imprimeur.
Ouais.
Puis toute la fabrication des livres, après ça se fait chez l'éditeur, le maquettage, le lettrage, toutes ces choses-là. Donc bah eux, ils ont tout un planning, donc forcément ils doivent prévoir à telle date, bah, tel bouquin, il doit être terminé pour que nous, derrière, on fasse le maquettage, la fabrication. Après, ça part chez l'éditeur. Bah, tout ça, donc ça se prévoit. Donc, quand on signe un contrat, on discute avec l'éditeur du planning. Donc, bah, on doit rendre le bouquin à telle date. Et donc, bah, ça nous donne le temps pour réaliser l'album.
Et que se passe-t-il quand on est en retard?
Alors, bah, souvent, idéalement, faut en dire quand, parce qu'on ne s'en rend pas compte du jour au lendemain. On se rend compte... Là, ça va être juste. Donc souvent, idéalement, on en parle avec l'éditeur et on essaie de s'arranger. La plupart du temps, on peut gagner quand même quelques semaines. Où,
voilà, les moyens de dépasser.
Souvent, il y a quand même un petit peu de latitude pour gérer ça. Et si vraiment, après, c'est catastrophique et il manque de temps, on en rediscute. Et, bon, moi, ça m'est jamais arrivé, mais je veux dire que ce soit vraiment beaucoup. Hein, j'ai pu dépasser un petit peu, mais ça a toujours sorti plus ou moins dans les clous. Et voilà, bah après on discute, on essaie de s'arranger pour voilà, pour se réorganiser. Si on s'y prend suffisamment en amont,
ça devrait
pouvoir se caser, quoi.
Alors vous parliez aussi d'éditeurs qui commandent des œuvres, donc ça vous en avez rencontré, et en général, ben, est-ce que ce sont des commandes précises?
En général, oui, c'est, on va dire, le schéma le plus classique, c'est on va présenter un projet personnel à un éditeur. Donc on prépare un dossier avec le synopsis, des pages découpées, 3 ou 4 pages réalisées, finalisées, les études de personnages principaux. Puis ben on va démarcher. Et les éditeurs disent oui ou non, ou ils font retoucher des choses. Et parfois un éditeur peut, il a un projet sur les bras, donc il peut avoir par exemple un scénario qui lui plaît mais pas de dessinateur. Donc il va aller démarcher des dessinateurs. Ou c'est des projets, ben comme Octobre 17 dans mon cas, où c'est vraiment donc un projet d'album documentaire. Ils avaient le projet mais pas de dessinateur. La contrainte aussi, c'était le délai
le temps,
était court,
voilà,
pour le réaliser.
Court. Donc, il fallait pouvoir accepter un tel contrat.
Il fallait pouvoir le faire. Donc moi, le challenge m'a intéressé aussi. Donc j'ai dit oui. Mais donc là, c'est l'éditeur qui est venu.
Et vous pouvez avoir combien de projets à la fois? Enfin, c'est qu'un seul projet à la fois ou pas?
Bah alors là, ça dépend.
Voilà. Bravo.
Ça va vraiment dépendre des auteurs. Il y a certains dessinateurs, ils peuvent faire qu'un album à la fois. D'autres vont pouvoir en faire 2 ou 3. Donc. Au plus de 2 albums, en tout cas dans mon cas, c'est compliqué. Souvent, j'en ai 2 en parallèle. Après, c'est...
C'est compliqué pour quelle raison? Alors mentalement, ou alors en termes de temps seulement?
C'est surtout en termes de temps. Parce que mentalement, en tout pour mon cas, j'arrive assez bien à passer de l'un à l'autre. Ça fait même du bien, des fois, de passer d'un univers à l'autre. Mais c'est plus question de temps, après. Ça devient très compliqué, après, de gérer plusieurs projets qui ont chacun leur temporalité et leur calendrier. Ça peut être assez compliqué.
C'est très stressant, en fait, peut-être,
oui,
aussi.
Voilà.
Ça vous met une pression qui n'est pas agréable pour travailler.
C'est ça. Après, on prend plus forcément de plaisir. Et souvent, du fait de notre métier, il peut y avoir... Alors après, on est en droit de refuser, mais il y a d'autres commandes qui peuvent arriver, des commandes d'illustration...
qui sont très importantes pour votre financement personnel.
C'est ça, ou puis même de par intérêt graphique, ou même de curiosité intellectuelle et tout, qu'on se dit, oh, ce serait bête de pas le faire et tout. Donc ça peut être vite compliqué d'insérer ce genre de projet ou de petites commandes dans le milieu si on a trop d'albums déjà sur le feu. Mais disons, pour travailler confortablement et de faire du bon travail, en tout cas, dans mon cas, plus de 2 albums en même temps, c'est compliqué.
Est-ce que vous avez songé, à force de rencontrer des scénaristes et de travailler avec eux, de faire votre propre BD entière tout seul?
Alors j'y ai déjà pensé, je pense comme beaucoup de dessinateurs, mais je me sens pas d'écrire... Alors forcément, j'ai des idées d'histoire, de personnages,
vous
des
avez
sûrement
acquis la technique par, ne serait-ce que par... non?
Oui,
par discussion,
j'ai jamais eu le temps en fait de m'y confronter, mais... C'est vraiment un métier, vraiment bien écrire une histoire, surtout des bons dialogues. Moi, j'accorde beaucoup d'importance aux bons dialogues aussi. Pour l'instant, je me sens pas de le faire. Bon, en même temps, j'ai jamais pris le temps de vraiment m'y confronter. Mais donc, puis ça me plaît bien de travailler avec des scénaristes aussi.
Vous aimez bien le fait d'être en binôme.
L'échange, le binôme, d'avoir un autre regard aussi sur mon travail. Et donc, non, je trouve ça intéressant. Après, l'écriture en soi me plaît, parce que bon, j'ai toujours aimé lire, et donc le côté littéraire me plaît. Quand j'étais plus petit, j'ai écrit aussi des petites choses. En tout cas, le côté écriture...
C'est pas quelque chose qui vous rebute?
Non. Et à l'école, j'aimais bien le travail de rédaction, quand il fallait faire des rédactions, écrire des histoires, j'aimais vraiment bien ça.
Mais vous pourriez, mais finalement, vous n'avez pas envie de vous lancer, quoi.
Voilà, parce que pour l'instant, déjà faute de temps, et puis ça me plaît bien pour l'instant comme ça, et puis la pratique du dessin me prend déjà assez
de temps. Oui, beaucoup, beaucoup de temps, ouais. Voilà. Tout à fait, c'est ce qu'on a du mal à se représenter, voilà. Je pense, quand on a une BD dans les mains.
Oui, c'est ça. C'est
la quantité de travail que ça représente.
On n'arrête jamais, c'est beaucoup de travail. Mais sur le principe, le fait de décrire me déplairait pas. C'est juste, plus un manque de temps, en fait.
Ou peut-être d'opportunités, oui, avec aussi, un sujet clé qui pourrait vous lancer plus particulièrement. Justement, on parlait de temps et de temps passé au travail. Est-ce que, finalement, par rapport au temps que vous passez au travail, c'est facile d'en vivre, de la BD, financièrement?
Non, c'est pas évident. Déjà, faut pas compter le tarif à l'heure.
Que... voilà, c'est pas un boulot comme ça.
Non, c'est vraiment un travail très chronophage qui demande un travail de tous les instants, hein, presque. Et donc c'est pas évident en vie, enfin surtout au début. Il faut le temps d'avoir de monter des projets, le réseau, puis de commencer en fait se lancer. Et après, pour en vivre en fait, il faut, alors à moins d'avoir la chance d'avoir un best-seller et toucher plein de droits d'auteur, selon la plupart des auteurs, on vit de la production de nos planches, on vit pas des droits d'auteur. Donc on touche rien sur les ventes en gros. On touche sur les avances sur droits, donc c'est ce que nous paie l'éditeur pour réaliser l'album.
Donc il faut avoir tout le temps des projets.
Ouais. C'est ça, donc voilà. Très bonne anticipation, j'allais dire. Donc en fait, après la difficulté du travail, ce qui fait que c'est pas toujours très reposant intellectuellement, c'est que on n'est jamais tranquille parce qu'on se dit, dès qu'on finit un bouquin, en fait, on recommence de zéro presque. Il faut remonter un dossier, aller redémarcher sans être sûr de pouvoir signer. Donc idéalement, en fait, il faut avoir des projets qui se chevauchent. C'est-à-dire que avant même de finir un bouquin, il faut déjà commencer à réfléchir au suivant.
Le prochain,
et de le préparer et d'aller démarcher pour, si tout se passe bien, le signer avant de finir celui qui est en cours. Comme ça, en fait, on n'arrête jamais. On a toujours des bouquins qui se chevauchent. Et avoir tout le temps du travail, en fait.
J'imagine que ça vous arrivait de rien avoir du tout pendant quelques périodes ou pas?
Alors, jusqu'ici, j'ai eu la chance que...
Ah non, non. Oh, c'est très bien, ça.
Vraiment de très peu. Hein. C'est le temps, en fait, que d'autres projets, le projet suivant se mette vraiment en route. Donc, peut-être quelques semaines et tout. Puis souvent, il y a des petits boulots d'illustration, des trucs comme ça qui viennent. Non, j'ai jamais été vraiment dans la grosse difficulté à vraiment avoir rien sur un long laps de temps. Mais ça peut arriver, hein, c'est ça le truc, c'est qu'à moins d'avoir d'être vraiment un très très gros vendeur, et même ainsi, hein, ça peut arriver, il peut se passer un truc que finalement, après on fait des bouquins qui se vendent plus trop.
En tout cas, c'est une vraie vocation, parce que par rapport au temps passé au travail, il faut vraiment aimer ça. Je pense que ça doit en décourager quelques-uns. Pas vous, mais ça peut en décourager quelques-uns.
Oui, ça peut décourager le fait de... vraiment avoir de ventes conséquentes derrière aussi. Des fois, ça peut être un... On se dit, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça?
Quel est le sens de la vie?
C'est ça. Mais bon, après, souvent, il y a un projet intéressant qui revient. Et... Puis, il y a ce goût de raconter des histoires, je pense qu'on a tous en commun. Envie de raconter des histoires, se dire que vraiment prendre du plaisir dans notre pratique... Et se dire toujours qu'il y aura un projet suivant qui viendra.
Alors justement, c'est bien, parce que ça fait le relais avec le thème suivant, le rapport au public. Parce qu'il y a aussi ce moment où vous rencontrez le public et il y a un retour sur ce que vous avez créé. Donc, est-ce que vous aimez bien ce moment-là?
Oui, c'est toujours intéressant, même si avant tout, je le fais pas pour ça. C'est vraiment le plaisir. Ça peut paraître un peu égoïste, mais de se faire plaisir, parce que ça demande en plus tellement de travail, de se faire plaisir sur le bouquin qu'on va faire sur le moment. Donc, avec le scénariste avec qui je travaille, d'avoir ensemble un projet qui nous motive vraiment, qui nous donne envie d'y passer autant de temps et autant d'efforts. Et on se dit pas sur le moment, est-ce que ça va plaire au public ou...
C'est pas quelque chose auquel vous pensez trop, alors, finalement.
Sur le moment, honnêtement, non. Même c'est plus vers la fin du bouquin, quand il va sortir, on va dire, bon, est-ce que ça va plaire et tout, et quel retour on va avoir.
Critiques, vous les lisez ou pas? Sur vos albums?
Oui, après, bon, j'ai pas forcément à la pêche tous les jours, mais souvent maintenant, les éditeurs nous font des services presse. Donc, ils nous envoient aussi les critiques qui sortent, donc on les voit aussi comme ça.
C'est angoissant, pas angoissant?
Sur les premiers bouquins, oui, peut-être, où on peut être plus facilement affecté, je pense, un peu sur des critiques négatives. Et... Après, on prend du recul, des fois, puis des fois, on a une mauvaise critique et on va en avoir deux bien derrière. Et... Voilà, après, on fait la part des choses. Et bon. Donc non, ça va. Mais c'est intéressant, quand même, de savoir ce que les gens... Parce que, au final, c'est fait pour être lu, et que des gens aussi... reçoivent le livre et c'est quand même intéressant de savoir ce qu'ils vont ressortir.
Alors en salon, il vous arrive aussi de rencontrer du public qui a peut-être déjà lu.
Quand il se passe bien.
Et donc lors de ces salons, le problème c'est que vous avez en tant que dessinateur un rapport particulier à ce public parce qu'il y a aussi un public qui vient pour la dédicace, pour l'objet dédicace
c'est
en fait, ce que n'ont pas par exemple des romanciers, etc.
Donc c'est vrai qu'on peut avoir des salons où on voit des personnes qui viennent avant tout pour la dédicace. Donc,
pour le dessin exceptionnel, voilà.
Qui n'ont pas lu notre bouquin ou qui viennent pour avoir la dédicace, en fait.
C'est des collectionneurs.
Pour le dessin, oui, il y a beaucoup de collectionneurs en bande dessinée.
Ouais.
Donc qui chassent la dédicace. Et qui,
c'est frustrant pour vous, ça ou pas? Ou alors, au contraire, vous dites c'est bien, c'est pas mal.
Ça fait partie aussi du monde de la bande dessinée. Et c'est... Puis on se dit que découvriront peut-être notre bouquin aussi comme ça, notre travail, donc c'est bien aussi. Et puis après, il y a des personnes qui passent et qui découvrent notre bouquin. Et après, on voit des personnes qui nous suivent d'un salon à l'autre, d'un bouquin à l'autre, donc ça fait plaisir.
Ouais.
Et après, notamment sur les... J'aime bien faire les salons mixtes qui vont livres, enfin on va dire romans et compagnie, et bande dessinée. Parce que là, le public est assez varié. Et c'est là, en fait, où j'ai le plus de public de découverte. Il va passer, il va voir les bouquins, et il va dire « Ah ouais, tiens, ça a l'air sympa ». Et c'est là où on a plus le temps de discuter, en fait.
Alors justement, c'est facile de parler de son travail ou pas, quand on est dessinateur, par rapport à un scénariste?
Ça va dépendre aussi des personnes qu'on a en face de soi, parce que parfois, les personnes sont très intimidées aussi.
Oui, tout à fait. L'endroit donc, est spécial aussi.
Et donc, ça va aussi dépendre. Des fois, il y a un feeling qui va bien se passer. Donc ça, mais oui, après, les échanges se font assez facilement.
Alors, de façon plus large sur la communication, les dessinateurs communiquent beaucoup maintenant par les réseaux sociaux. Est-ce que c'est votre cas ou pas?
Non, il faudrait que je fasse plus.
Vous pensez que c'est une solution, quelque chose qui vous valoriserait, ou alors pas forcément?
Disons que maintenant, ça fait partie de notre métier, en quelque sorte, de vraiment communiquer, se montrer sur les réseaux. Il y a des auteurs... Donc, dessinateurs ou scénaristes qui sont, moi, ça m'impressionne même des fois, qui sont très forts pour se créer des réseaux.
Oui.
Mais c'est un métier en soi, presque. Il faut être très présent en ligne, poster des choses vraiment très régulièrement. Et même des choses de, plus de sa vie personnelle, de ce qu'on aime bien, de ce qu'on fait, ce qu'on a mangé aujourd'hui, ou je sais pas quoi.
Et là, c'est
pas trop
métier,
mon
truc.
Et puis, j'aime pas trop me montrer personnellement. Puis, je trouve pas ça forcément très intéressant de...
Là, les réactions sont différentes, peut-être aussi. Alors, vous postez un dessin, et donc vous avez plein de réactions. Qu'est-ce que ça vous fait?
Plein, c'est très relatif.
Des réactions.
Voilà, j'ai des réactions. C'est toujours intéressant, parce que ça crée un échange aussi. Il y a des personnes qui me suivent vraiment au fil du temps sur le net. Donc, ça fait toujours plaisir, c'est sympa.
Il y en a qui vous donnent des conseils ou qui essaient de vous guider dans vos...
Non, par contre, il y a parfois, ce qui est intéressant, c'est plus des conseils en parallèle. Ça va être sur tel ou tel dessin que je vais faire, ça va être des conseils, ils vont te conseiller tel ou tel artiste, parce que ça leur fait penser à telle ou telle œuvre, ou tel univers historique, ou tel livre, ou tel roman.
Et donc là, d'un coup, vous voyez des liens que vous aviez peut-être pas vus jusqu'à présent.
Oui, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des liens qui sont comme ça, des petites discussions. Alors, ça reste à l'échelle d'un post Facebook. C'est quelques échanges, mais c'est vrai, c'est toujours intéressant.
Alors, je voulais savoir aussi si, finalement, vous étiez sensible à votre environnement proche. Quand je dis votre environnement proche, ce qui vous arrive dans votre vie personnelle, mais aussi ce qui nous est arrivé collectivement dans les 2-3 ans derniers. Par exemple, la crise du Covid la guerre en Ukraine, enfin, je sais pas, les événements comme ça.
Oui, ça joue, même si c'est inconscient, je pense. Alors, dans ma pratique graphique en elle-même, pas forcément, mais ça va plus être après un sentiment général.
Dans votre réflexion par rapport à votre métier, est-ce que ça a changé quelque chose ou pas?
Alors oui, parce qu'on peut se demander comment ça va affecter notamment le secteur de l'édition, donc tout ça. Donc on voit notamment avec les prix du papier ou ce genre de choses, qui peut même retarder des sorties ou d'albums. Donc oui, de toute façon, sur tous les pans de la vie, pas forcément artistique, de toute façon, on y pense forcément.
Ça n'influe pas sur votre productivité, c'était ça en fait ma question.
Oui, j'avais bien compris, c'est vrai que j'ai un peu louvoyé, mais... non, pour la pratique en elle-même, de faire des albums, là-dessus, non.
Ça peut pas, avoir d'impact.
Non, c'est plus après, ça peut être sur mes dessins annexes, mes fameux petits coins de feuilles où je fais, ou des fois, j'ai vraiment envie de m'évader, je veux refaire des dessins bucoliques, ou mes dessins de paysages, ou de choses comme ça, où là, je...
Illustre un besoin d'apaisement.
Et d'apaisement.
Par rapport à ce qui peut se passer autour de vous.
Voilà, ça va plus être ça. Mais sur la production en elle-même, on va dire purement professionnelle des albums, non, c'est pas son. Après, faut tenir délai, faut faire les bouquins, respecter les contrats de boulot d'illustration que j'en ai eu à faire dernièrement et tout. Donc,
oui, il y a suffisamment à faire. Alors, comme aux autres artistes, je voulais aussi vous demander si vous aviez des œuvres d'art à nous faire découvrir ou des créateurs qui vous ont marqué. C'est toujours intéressant de partager ça avec le public.
Oui, donc alors j'ai pensé à... Ça, c'était pas évident, en fait, parce qu'il y a plein de noms qui viennent.
Oui, forcément. Dur de faire un choix.
On pourrait refaire une émission juste pour parler des artistes qui nous plaisent. Donc j'ai pensé à Daniel Bachman, qui est un musicien américain, donc un guitariste qui s'inscrit un peu dans ce qu'on appelle l'American Primitive, donc un courant de guitare assez épuré, guitare acoustique beaucoup. Donc c'est de la guitare ouais, très épurée, acoustique, très atmosphérique en fait, et qui me plaît beaucoup, que j'aime beaucoup écouter justement quand j'ai besoin d'être assez tranquille.
Bah, c'est une question que j'ai pas pensé à vous poser, c'est que vous en utilisez quand vous travaillez de la musique?
Oui,
ou pas?
J'écoute pas mal de musique, ou parfois même j'aime bien être dans le silence, qu'il n'y ait pas de bruit. Mais oui, pas mal de musique qui va varier vraiment selon l'humeur du moment ou ce que j'ai à dessiner. Donc,
mais pas forcément dans l'ambiance de l'album.
Pas forcément, non. Ouais. C'est plus de l'état d'esprit du moment, mais ça peut parfois être lié à l'album. Hein. Donc pour Daniel Bachman, que j'écoute depuis pas mal d'années maintenant, c'est quand j'ai besoin d'être assez tranquille, assez apaisé dans ma tête et dans l'esprit, et donc
c'est votre méditation.
Voilà, et donc c'est vraiment un peu, il s'inspire beaucoup de guitare, de musique traditionnelle américaine. De blues, de country, de musique folklorique, et sur les derniers albums un peu plus de drone aussi, donc où ça va être un son vraiment des sons d'ambiance, des sons continus, voilà, et donc et pareil ce que faisait un peu John Fahey aussi, où lui il s'inspire aussi même de compositions de pièces de musique classique qui reprenaient la guitare, de raga aussi, les ragas indiens, ce genre de choses, et donc et c'est de l'acoustique, il n'y a pas de parole, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé.
D'accord.
Donc, enfin, de l'instrumental, pardon, je voulais dire.
Merci beaucoup, Benoît Blary, parce que vous nous avez comblé, on a plein de références, c'est parfait.
Merci pour l'invitation.
Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant notre invité et son parcours en sous-texte de notre podcast, ainsi que les références concernant ses activités. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler. Vous pouvez également nous écrire au mail du podcast creodyssee@gmail.com pour nous faire part de vos remarques et suggestions. Cet épisode a été réalisé par Eric Blanc, ainsi que la musique, et animé par moi-même. Et en attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous et restez curieux.